la liturgie, de la liturgie de la vie spirituelle, de l'ordre des cadres. Pourquoi? Parce que, pendant le carême, c'est l'occasion pour revenir sur une vérité un petit peu, sur un des aspects principaux de la vie de l'Église, qui est la liturgie. Parce que la liturgie, c'est la vie de l'Église, on dit d'ailleurs la vie même du Christ. Et puis, surtout, notre vie spirituelle repose, justement, plus exactement, s'exprime au mieux à travers la liturgie de l'Église. Ben, je l'ai souvent dit, je crois, quand j'étais à Versailles, je passe ainsi, et j'ai eu l'occasion de le voir dimanche, et je crois que le grand drame de la vie spirituelle actuellement, encore aujourd'hui, c'est qu'elle manque de base, elle manque de fond. Pourquoi? Parce que, dans le désordre que nous avons connu, sur lequel je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le thème de notre journée, mais il est vrai que ce désordre a amené d'autres formes, qu'on a appelé d'autres formes de vie spirituelle, mais que souvent cette vie spirituelle reposait essentiellement sur le subjectivisme, ce que je ressens, n'est-ce pas, au contact de notre Seigneur, ce que je vis à l'intérieur de moi-même. Et donc, le problème de ce genre de vie, c'est qu'elle n'est pas stable. Parce que nos sentiments ne sont pas stables. Nous avons des sentiments très variés en fonction de ce que nous sommes, des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous sentons bien nous-mêmes, naturellement parlant, nos sentiments évoluent en fonction justement de ce que nous ressentons. Or, par rapport au Christ, par rapport à la vie surnaturelle avec le Christ, il doit y avoir, il doit exister une permanence. Pourquoi? Parce que le Dieu auquel nous nous adressons est la permanence même. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas variable en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Dieu ne change pas en lui-même. Admettre un changement en Dieu, c'est carrément, je dirais, nier sa divinité, nier ce qu'il est. Et c'est pourquoi je me permets de beaucoup insister là-dessus au début de ces petits topos, pour bien comprendre combien notre vie, qui est une union avec le Christ, n'est pas dépendante de nous, mais dépendante du Christ. Donc elle doit prendre les caractéristiques du Christ, la spécificité du Christ. D'ailleurs, quand vous relisez l'Évangile, on voit bien, je reprendrai simplement cet exemple, moi personnellement, que j'aime énormément, c'est quelques temps avant la Passion, c'est pratiquement la dernière conversation, si je puis appeler ça une conversation, avec les pharisiens, lorsque notre Seigneur va leur dire, avant qu'Abraham, votre père Abraham, plutôt, a attendu mon jour, il l'a vu et il s'en est réjoui. Là, les pharisiens, complètement sidérés, disent à notre Seigneur, Abraham est mort depuis bien longtemps, vous n'avez pas 50 ans et vous prétendez qu'Abraham vous a vu. Et la réponse fuse, si je puis dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Reprenons là la fameuse expression de Dieu à Moïse au moment du buisson ardent, quand Moïse dit à Dieu, mais vous me demandez d'aller voir les Juifs et de leur dire que vous m'envoyez, mais je veux dire, qui est-ce qui m'a envoyé? Ils vont me demander. Tu leur répondras, ego sum qui sum, je suis celui qui suit. Cette expression « et je suis » est d'autant plus frappante, je vous rappelle que dans l'hébreu, le verbe « être » n'existe pas. Il n'y a pas de verbe « être ». On ne dit pas « ceci est une table », on dit « ceci, une table ». Pourquoi? Parce que le terme « être » dans la langue de notre Seigneur, c'est « Yahvé ». Donc on ne le prononce pas dans l'Ancien Testament. Yahvé, c'est le nom imprononçable qu'on doit tellement respecter qu'on ne prononce surtout pas ce nom. D'où le fait que dans la grammaire juive, il n'y a pas de verbe être. C'est-à-dire, pensez combien c'est important, nous en reparlerons dans le dernier topo, à propos de l'Eucharistie. Le Christ n'a pas dit ceci est mon corps, il a dit ceci mon corps. Pour ça, il n'y a pas de discussion possible. Moi, c'est clair. Eh bien, quand le Christ reprend cette définition, je suis, ce qui fait d'ailleurs que les Juifs comprennent très bien ce qu'il dit. Les Juifs, à ce moment-là, vont vouloir lui jeter des pierres, vont vouloir le lapider. Il se fait Dieu. Là, c'est vraiment, je dirais, l'affirmation absolue du Christ avant la Passion. Je suis Dieu. Et donc, lorsque le grand prêtre posera la question, dites-vous enfin, êtes-vous le Christ? Êtes-vous le Messie? Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, etc. Et donc, c'est cette idée de permanence sur laquelle je voudrais insister. Il y a d'autres chaises, hein. Vous pouvez prendre le style de double. Juste là. Cette réalité de la permanence de Dieu. Dieu ne change pas. Alors c'est important, d'une part, évidemment, de manière générale, si vous voulez, par rapport à la vie de l'Église, je vais vous en dire tout de suite. C'est important vis-à-vis de notre âme. Nous avons affaire à un être, nous parlons avec un être, nous sommes avec un être qui nous donne sa propre permanence, qui nous fait rentrer dans sa permanence, dans son être lui-même. C'est ça la vie spirituelle. Vous voyez pourquoi j'insiste tant, je veux dire, attention, ne basons pas la vie surnaturelle de notre âme uniquement sur ce qui passe. Qu'elle puisse, cette vie surnaturelle, passer aussi par, je dirais, des affects humains. Oui, bien sûr, nous sommes dans un corps. Et donc il est tout à fait légitime, si le bon Dieu le permet, que nous ressentions parfois, de manière, je veux dire, physique, ou même psychologique, cette présence de Dieu qui nous rend heureux, qui dilate l'âme. Donc, ça se reflète aussi sur le plan humain, mais vous voyez bien que ce qui est premier, c'est la présence de Dieu. Pour prendre cet exemple, vous dire que le jour de mon ordination, je n'ai pas été élu, serait grotesque. J'ai été élu. Pourquoi ? Parce que je savais qu'à l'instant où l'évêque imposait les mains sur ma tête, ça y est, c'était fait. Je recevais le sacrement de l'ordre, donc c'était l'aboutissement d'une vocation que Dieu m'a donnée, c'était le début d'un apostolat que Dieu m'a donné aussi, donc je l'ai ressenti, pas physiquement, hein, rassurez-vous, moi je ne suis pas monté au ciel, non, non, non. Mais quand même, intérieurement, je me suis dit, bah, ça y est mon pote, t'es prêtre. Ça, je dirais, psychologiquement, c'est très important. Mais, attention, j'ai eu cette sensation parce que j'étais sûr de ce qui se passait. De la même manière que dans l'Eucharistie, j'y reviendrai aussi, c'est pas parce que vous croyez que Jésus est présent. C'est parce que Jésus est présent que vous croyez. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez les distinctions, combien c'est important, par exemple sur la liturgie. Je connais un séminariste, je tairai le nom, il est prêtre maintenant, à Bordeaux, qui est venu me voir effaré un jour. Il était en stage dans une église, pas à Bordeaux, à l'extérieur de Bordeaux. Il dit, monsieur l'abbé, j'étais un peu surpris parce que à la fin de la messe, le curé a pris les hosties consacrées, qu'il avait consacrées pendant la messe, et les a carrément remises dans la réserve, comme ça, même pas au tabernacle, mais dans le sac où il y avait les autres hosties non consacrées. Un peu surpris quand même à la sacristie, il dit au curé, mais attendez, il y a un truc qui ne va pas là quand même. Et le curé le regarde et dit, mais enfin, tu sais bien que tout ça, c'est une image. Si écoutez, vous avez une seule solution, mon généraliste, d'aller voir le cardinal, il va lui raconter la chose. Parce que là, évidemment, s'il n'y croit pas, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. Mais combien le geste est important, aussi bien positivement que négativement. Donc ce que je veux bien vous montrer là ce matin, c'est combien il y a, ce que l'Église a toujours enseigné d'ailleurs, il y a l'action extérieure de la liturgie, mais qui doit refléter la pureté intérieure. Ça ne veut pas dire, voyez, que le sacrement dépend de notre pureté intérieure, ça veut dire que c'est la manière dont nous recevons le sacrement. Et parce que nous sommes faits de matière aussi, la liturgie a besoin d'expression humaine. Et voyez, il y a un ordre, pourquoi j'insiste tant au départ de ce petit topo, j'insiste énormément sur le fait, encore une fois, de la permanence de Dieu dans laquelle nous rentrons. Plus extrêmement, dans laquelle il veut nous faire rentrer. Alors, parlons de la liturgie, et particulièrement de la liturgie, c'est le thème de cette première conférence, donc je vais lire liturgie de l'Église, forme aboutie de la prière, je vais vous montrer. Et pour le comprendre, bon, je ne vais pas vous assassiner de citations, mais il y en a une, et elle ne vous étonnera pas, c'est, j'ai l'étudié bien sûr, de Mediator Dei de Pinouze. Et c'est la grande encyclique 47, donc, qui a donné, effectivement, là, je dirais, le détail, l'expression même de la liturgie catholique. Et voici ce que disait le Saint-Père. La Sainte Liturgie est donc le culte public que notre Rédempteur rend au Père comme chef de l'Église. C'est aussi le culte rendu par la société des fidèles à son fondateur et par lui au Père éternel. C'est en un mot le culte public intégral du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire du chef et de ses membres. Vous avez là tout l'essentiel. Hein, culte public que notre Rédempteur rend au Père comme chef de l'Église. Là, vous avez les trois éléments nécessaires. Culte public, rendu par le Christ, acquis au Père. Et au fond, c'est la définition exacte, non simplement de la liturgie en tant que telle, mais aussi de notre prière. C'est notre prière, elle passe par le Christ, qui n'est absolument pas un obstacle, évidemment, mais qui, au contraire, est celui qui prend notre prière et la porte vers le Père, la donne au Père. Et, au fond, on a là le résumé de la croix. Sur la croix, le Christ offre à son Père, il offre notre salut, bien sûr, qu'il réalise dans sa nature divine et sa nature humaine, dans sa personne unique, mais en même temps, il prend ce qu'étaient nos péchés, ce que sont nos fautes, nos faiblesses, mais en même temps aussi, tous les mérites que nous allons pouvoir acquérir par la croix. Et notre prière, elle prend appui, elle est fondée dans la croix. Et elle s'adresse à qui ? D'abord à Dieu le Père. Donc à la Sainte Trinité, c'est évident. Mais c'est ce mouvement ascendant auquel la liturgie veut nous habituer. Alors, maintenant, deuxième chose, quel est le rôle de l'Église dans cette affaire ? C'est ça, c'est un point très important. La liturgie est avant tout une affaire de l'Église. Pourquoi ? Parce que le premier acte liturgique est celui de la croix, comme je viens de l'indiquer, et que c'est le Christ qui l'a pris totalement en lui-même. C'est le Christ, le premier liturge, si je puis m'exprimer ainsi. Et puisque le Christ c'est l'Église, l'Église ne fait que continuer dans son action liturgique l'acte majeur du Christ, qui est d'offrir au Père. Donc, il y a un lien essentiel entre la liturgie et l'Église. Et donc, avec notre vie spirituelle, puisque je crois vous l'avoir montré, notre vie spirituelle part justement de cette liturgie. Elle repose sur cette liturgie. Et c'est pourquoi le rôle de l'Église ici est absolument, c'est plus qu'essentiel, il est vital, il est la vie. Le rôle de l'Église là, c'est la vie même de la liturgie, la vie même de notre prière, parce qu'encore une fois, elle est le Christ continué. Et donc, il est évident que, de manière pratique, la liturgie est donnée par l'Église, à travers sa tradition. Je veux dire par là, contrairement, ça, c'est une conversation, je me souviens que j'avais eue à l'époque, quand nous voyions assez régulièrement à l'époque des débuts de la Fraternité Saint-Pierre, l'éminentissime cardinal Ratzinger, donc Benoît XVI, pape émérite, c'est des discussions qu'on avait, et que vous retrouvez d'ailleurs dans les livres qu'il a écrits sur la liturgie. Il déplorait le premier, qu'on avait perdu ce sens véritable de la liturgie en laissant l'inventivité des prêtres. C'est-à-dire que nous, les prêtres, on a cru trop longtemps qu'on était chargés de la liturgie. Non. On est les témoins, on est les passeurs de la liturgie. C'est pas moi qui vais créer la liturgie. C'est l'Église qui va me donner la liturgie, qui me la confie par mon sacerdoce, et qui me dit, donne-la aux fidèles. Donne-la à ceux qui doivent en profiter pour le premier. À travers, d'une part, la messe, bien sûr, mais tous les sacrements. Et c'est ce qui nous explique qu'il y a des règles. Alors on dit, oh là, mon Dieu, quelle horreur des règles. C'est pas possible, la liberté, le libre arbitre, n'est-ce pas ? Et toujours au nom de cette subjectivité, il faut ressentir, n'est-ce pas, la liturgie. Et donc, alors ça donne des trucs absolument extraordinaires. Je me rappelle, quand j'étais gamin, avec mon frère Vincent, une fois, nous jouions de l'orgue dans une petite paroisse le dimanche. Il avait le droit d'aller travailler l'orgue à l'époque dans cette paroisse. Et un matin, il accompagnait la messe, j'étais à côté de lui, et je vois l'enfant de cœur arriver du fond de l'église avec une enveloppe et qui gueule « Ah, père, 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 il y a du courrier !» Il se regarde tous les deux, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le prêtre ouvre l'enveloppe. « Ah, mes frères, une lettre de Paul !» C'était l'épître. C'est grotesque, complètement grotesque. Mais il n'y avait plus les règles, vous comprenez. Il fallait
c'est
pour ça qu'il y a une liturgie grotesque, parce qu'il n'y a plus la règle donnée par l'Église. Il n'y a plus cette soumise, je vais revenir d'ailleurs sur cette règle romaine, que j'aime beaucoup, mais il n'y a plus la règle de l'Église. Il fallait bien inventer quelque chose pour rendre, je dirais, attirant la liturgie, attirante. Donc, chacun est allé sa petite invention. Seulement, le problème dans cette affaire, c'est qu'évidemment, petit à petit, eh ben, on a perdu ce contact par la liturgie inventive, on a peu à peu perdu le contact avec la liturgie de la foi. Et c'est ça le drame. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a des règles, oui, il y a des règles données par l'Église qui, je le répète, sont fondées sur sa tradition, pas une règle comme ça inventée un beau matin. La liturgie étant quelque chose de vivant, dans un être vivant, si je puis dire, il est bien évident là aussi que seule l'Église a ce pouvoir sur la liturgie. Donc, il ne s'agit pas de la changer, il s'agit simplement de permettre à la liturgie, non même pas d'évoluer, j'aime pas le terme, mais de la rendre plus présente pour les fidèles, ce qui explique les différentes modifications qui ont pu être apportées, ce qui explique la réforme de Saint-Pie V, à l'époque, à son époque, pour rendre la messe plus, d'abord, plus digne, plus unie, et plus parlante pour les fidèles. C'est ça la réponse. C'était pas inventer quelque chose, c'était élaguer, enlever ce qui n'était pas vraiment de la tradition, et garder les éléments traditionnels en les présentant de telle sorte qu'ils soient dans un ordre parfait, l'ordre de la messe, sur lequel je reviendrai, ce qui nourrissait la spiritualité, ce qui nourrit toujours la spiritualité des fidèles, comme du prêtre d'ailleurs. Donc la règle est indispensable. Mais vous voyez, je la prends ici, la règle, non pas simplement comme la règle, mais comme un moyen qui est donné par l'Église pour rendre non pas la liturgie plus attirante, plus attrayante, mais pour en pouvoir en bénéficier de tous ses fruits. Voilà, c'est ça le fond du problème. Que la liturgie me permette vraiment d'exprimer, que je puisse rentrer à l'intérieur de cette liturgie pour rentrer vraiment, que ma prière puisse rentrer dans son expression elle-même. Donc ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que la prière personnelle, non seulement n'est pas, je dirais, séparée de la liturgie, mais elle se nourrit de la liturgie. Je vais prendre un exemple, regardez les messes de carême. Vous avez des trésors dans les textes, des trésors spirituels, particulièrement les oraisons que je vous recommande particulièrement. Chaque oraison de chaque jour est donnée par l'Église. Et vous pouvez méditer cela pendant toute la journée. Ça peut porter toute une journée, on n'y pense pas assez, je crois. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher des grands auteurs spirituels, même s'ils sont très grands, je n'en doute pas un seul instant. Commençons par aller au texte. Commençons par prendre ces oraisons que l'Église nous donne et qui sont absolument des merveilles. Des merveilles parce qu'elles résument très très bien toute la foi de l'Église. Elles résument très bien tout son état d'esprit. Par exemple, au carême, eh bien, notre esprit de pénitence, d'abandon, de refus de soi-même et de pénitence pour justement acquérir la pureté nécessaire. Et il faut rentrer dans l'esprit de l'Église. Ça, c'est rentrer dans l'esprit de la liturgie. Rentrer dans l'esprit de l'Église. Et je vous disais, tout particulièrement, dans l'état d'esprit de l'Église romaine. J'y insiste. Pourquoi ? Parce que naturellement parlant, la romanité, c'est la simplicité, c'est l'esprit de synthèse. Remarquez avec moi, je remarque toujours cela, les oraisons, enfin, je parle des oraisons de carême, mais même n'importe quelle oraison de saints, ou de Pâques, ou de Noël, sont d'une simplicité extrême. C'est pas, ça dure, il y a quelques oraisons parfois qui sont très longues, mais elles datent du 19e siècle, c'est très drôle. Et les grandes oraisons, les anciennes, c'est extrêmement simple. Relisez par exemple, alors je vais prendre deux exemples si vous voulez, ce qu'on appelle les grandes ours, c'est-à-dire les oraisons qu'on chante avant Noël, les 8 jours de Noël. Grandes ours, pourquoi ? Parce que « O sapientia », elles sont magnifiques. Et elles résument très très bien l'attente de l'Église, et surtout, je dirais, l'Église donne déjà la définition de celui qui vient, Dieu fait homme. Et puis vous prenez le Vendredi Saint, là aussi, les impropères, et rien de plus beau, rien de plus simple, et rien de plus riche. On peut méditer les impropères, ô mon peuple, que t'ai-je fait ? Je t'ai donné ceci, j'ai construit, on prend toutes les images de l'Ancien Testament, je t'ai construit une vigne, j'ai creusé un puits, je l'ai entouré, et tu m'abandonnes, tu me tues, etc. Ô mon peuple, populé Deus, puis de fascisti, qu'est-ce que je t'ai fait ? On a tout l'état d'esprit de Christ, donc de l'Église. Pour ça, personnellement, je recommande beaucoup ces oraisons. Et donc, je vous disais, les oraisons dans cet état d'esprit de l'Église romaine. Non pas que les autres églises n'aient pas leur propre richesse, mais l'Église romaine, c'est le cœur même de l'Église, c'est le chef de l'Église, et c'est pas simplement qu'il y a le pape, il y a toute la richesse, spirituelle de cette Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises, et qui se résume justement dans cette simplicité de prière. Donc vous voyez combien il est absolument nécessaire, je le dis vraiment, de nourrir notre prière personnelle par la prière de l'Église. Pas simplement les sacrements, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais d'abord, tout simplement, de manière générale, par cette prière de l'Église, en profitant de sa richesse. Et donc, ce qui est ici très révélateur, c'est que cette liturgie de l'Église, cette liturgie donnée par l'Église, dont je vous disais, le point très important, c'est qu'elle est au fond l'expression de la liturgie du Christ, comme le rappelle le Saint-Père ici, qu'elle est un culte public. Alors, là, je voudrais m'arrêter sur deux points. Notre prière n'est pas inutile, mais la grande prière, c'est le culte public donné à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes organisés en société. Je vous l'ai dit dimanche pour celles d'entre vous qui étaient présentes, il est clair que notre salut est personnel. Il y a une relation personnelle du Christ à notre âme. Et comme je vous le disais, elle est personnelle au sens où, je dirais, Dieu s'adapte à notre psychologie, à ce que nous sommes, à notre état de vie. Il est évident que la relation avec Dieu n'est jamais la même en fonction que l'on soit épouse, mère de famille, père de famille, prêtre, religieux, religieuse. Il y a un stade différent pour chacun de nous, parce qu'il y a un état différent. Que Dieu s'adapte, si je puis dire, à chaque état, le but étant de donner sa permanence à chacun de nous en fonction de ce que nous sommes, en fonction de nos besoins, en fonction de nos mérites et en fonction de la grâce surtout. C'est la grâce qui est première. Donc il y a bien cette relation intime de notre âme, c'est le but de la prière. Mais, notre salut personnel se réalise au travers d'une institution que le Christ a voulu et qui est l'Église. Ça, on ne peut pas y échapper. Et chaque fois, vous voyez, que dans l'Église, il y a eu des gens qui ont dit « Non, mais on n'a pas besoin de l'Église. » Il y a eu de nombreux d'hérésies, et une hérésie très bon prévue, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, qui consiste à dire « Non, mais l'Église, c'est avant tout un point de vue, c'est avant tout un ressenti, n'est-ce pas ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ce subjectivisme. C'est avant tout une Église spirituelle. » On n'a pas besoin de cette hiérarchie affreusement lourde, on n'a pas besoin de cet ordre, de ce triomphalisme, ça s'empêche les gens de prier, il faut retrouver cette politique de l'Église, etc., etc. C'est oublié, tout simplement. C'est le Christ qui a voulu la hiérarchie de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le premier pape Saint-Pierre n'a fait que continuer le désir du Christ qui était de hiérarchiser l'Église. Pourquoi fait-il la hiérarchiser? Parce que le Christ, offrant son saint sacrifice, voulait que ce saint sacrifice soit conservé jusqu'à la fin des temps par l'institution de l'Église. Parce qu'il savait très bien que s'il ne donnait pas, je dirais, une ligne directrice dans sa sagesse divine, il était évident que chacun allait partir de son côté en interprétant à sa manière ce que le Christ avait laissé. Donc, il a voulu l'Église, il a voulu sa hiérarchie, pour que justement chacun et chacune puisse profiter de son apport, de l'apport de l'Église, et puisse vraiment en bénéficier totalement. Donc quand on disait au Moyen-Âge, hors de l'Église, point de salut, c'est ça que ça voulait dire. Celui qui veut construire sa vie spirituelle sans l'Église, il est perdu. Parce qu'il sera soumis, justement, uniquement à sa subjectivité. Oui, l'appartenance à l'Église, c'est pas simplement, un petit truc extérieur. C'est une réalité vitale pour notre âme. Et même plus que ce que je vous disais sur la liturgie, et c'est le fondement même de notre appartenance, le fondement même de notre vie de prière, justement, en étant attaché à l'Église. Et c'est en ce sens que Pie XII dit, voilà, c'est le culte public. C'est pas simplement rendre honneur et gloire au Christ au roi, ça fait partie du culte public, mais c'est le culte de l'Église dont nous bénéficions. Et je vous demande de bien penser à ceci. Lorsqu'on participe au culte public de l'Église, c'est non seulement l'Église militante qui prie, c'est l'Église souffrante du purgatoire, et c'est l'Église triomphante du ciel, c'est la communion des saints. La prière de l'Église est la meilleure manière de mettre en œuvre le grand dogme de la communion des saints. Nous bénéficions de cette espèce d'échange de prière, si vous voulez, où chacun apporte ce qu'il est, suivant son état, et tout cela pour rendre gloire d'abord à Dieu. Donc il faut bien que l'Église, encore une fois comme le rappelle le Saint-Père ici, c'est le premier but de la liturgie, le premier but de l'Église, rendre honneur et gloire au Père en continuant ce que le Christ lui-même a commencé. Et nous, notre participation, elle passe justement par cette liturgie de l'Église. Vous voyez, quand on nous parle de la participation des fidèles, et oui, mais elle est là. Elle n'est pas cherchée ailleurs. Je vais revenir sur cette manière de prier, ce culte intérieur et extérieur. Mais je veux beaucoup insister sur dans ce début de récollection, sur ce lien qu'il y a avec la liturgie de l'Église. Parce que non seulement elle nous fait participer à la société qui nous sauve, parce que le salut passe par l'Église, puisqu'il passe par le Christ, d'une part. En plus, elle nous fait participer, elle rend notre prière plus belle encore, parce qu'elle participe à la sainteté de l'Église. La prière, notre prière devient sainte par la sainteté de l'Église. Vous voyez ce merveilleux livre du cardinal Journet, qui a fait tout un traité sur l'Église, et l'un de ses tomes s'intitule « L'Église sainte, mais remplie de pécheurs ». L'Église sainte, mais remplie de pécheurs. C'est-à-dire que malgré notre faiblesse, malgré ce que nous sommes, nous pouvons participer à la sainteté de la prière de l'Église, et en y participant, nous recevons la sainteté de l'Église. Notre âme parvient à la pureté de Dieu. Ou plus exactement, laisse entrer la pureté de Dieu en nous-mêmes. C'est, je trouve, la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver, et qui montre bien, justement, toute la réalisation du Christ. Alors, à partir de là, vous avez effectivement culte intérieur, culte extérieur. Et si vous voulez bien, je vais commencer par le culte extérieur. Pourquoi ? Parce que, puisque nous sommes faits de corps et d'âme, la liturgie s'exprime par des gestes qui font prier notre corps et qui aident à la prière de l'âme. Les gestes sont indispensables. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes des esprits dans un corps. On ne s'agit pas, comme l'ont fait les manichéens, de couper le corps et l'âme, en disant, voilà, le corps, c'est épouvantable, c'est de la matière, d'ailleurs, on ne s'en occupe pas, mais il y a l'esprit, nous sommes les purs, etc. Bon, ça, c'est du pharisaïsme absolu. Il faut faire prier notre corps, mais pas n'importe comment. D'où l'importance des gestes, là aussi, donnés par l'Église. Quand on vous dit de vous mettre à genoux, c'est pas idiot. C'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous faire mal aux genoux. C'est pour exprimer, et tout simplement, l'adoration due au Saint-Sacrement. Et si on vous dit d'être debout pour l'Évangile, c'est par respect pour la proclamation du texte même de notre Seigneur. Mais jusqu'à présent, dans la liturgie, on ne vous a pas dit d'être couché, on ne vous a pas dit de dormir, parce que ça ne fait pas partie de la liturgie, ça. Vous arrivez de dormir pendant les sermons. Les sermons, ce n'est pas partie de la liturgie. Ça, c'est bien. Ça, c'est un surajout. Les sermons, autrefois, ce n'était pas à la messe. Jusqu'au 19e, les sermons se faisaient aux vêpres. Il est vrai que tous les fidèles venaient aux vêpres l'après-midi. Et là, vous aviez droit à un sermon d'une demi-heure. Et puis, l'Église Bonne Mère, vous voyez comment elle s'est évoluée, l'Église, pour le coup. Elle s'est dit, on ne peut pas imposer ça, c'est plus possible. Quoi. Alors, on a mis le sermon pendant la messe. On recommande au prêtre de ne pas être trop long. Mais, je le répète, le sermon ne fait pas partie de la liturgie. C'est un enseignement. Donc, si le prêtre n'a pas envie de prêcher, il ne prêche pas, il ne faudra pas nous en scandaliser. Bon, voilà, il n'a pas envie, c'est tout. Peut-être un manque-toi à son devoir, puisqu'il doit enseigner. Enfin, bon, ça, c'est un autre affaire. Donc, c'est pour vous dire, voyez, que les gestes qui sont donnés par l'Église font partie de la liturgie, qui sont extrêmement importants. On explique par exemple la génuflexion à deux genoux devant le Saint-Sacrement exposé. C'est parce que justement il est exposé. Il y a donc là la gloire de Dieu. Donc, si on rentre dans une église, il y a le tabernacle, on fait la génuflexion qui est le geste propre de l'adoration. S'il y a 500 ans d'exposition, on fait la génuflexion à deux genoux pour bien montrer qu'il y a une différence entre le Christ, l'Eucharistie au tabernacle et l'Eucharistie exposé. Il y a une présence, non pas plus réelle, mais plus forte physiquement de notre Seigneur dans l'exposition du Saint-Sacrement. Donc nous répondons à cette présence plus forte physiquement par un geste encore plus précis d'adoration, etc., etc. Donc oui, le corps doit prier. Mais alors la difficulté, dans notre prière et dans la liturgie, c'est pas que le geste ne soit que le geste. C'est-à-dire qu'on ne s'attache qu'au geste en tant que tel. Et voyez-vous, il me paraît qu'il y a une chose très importante, qu'on a trop oublié, nous les prêtres, c'est d'enseigner, c'est-à-dire d'expliquer le pourquoi des gestes liturgiques, pour nourrir justement la prière intérieure. Parce que autant le corps aide à la prière intérieure, autant la prière intérieure rend le geste plein de sens. Si je dis la messe uniquement en respectant les gestes, mais sans avoir vraiment l'esprit à ce que je fais, je peux vous dire une messe de Saint-Pie-V invalide. C'est évident. Je peux dire une messe de Saint-Pie-V invalide. Où je fais les gestes, hein. Mais je ne pense pas, c'est ce qui est arrivé à l'autre chien. Le prêtre, lorsqu'il a consacré, il dit, finalement, c'est pas possible cette histoire. Comment le Christ peut-il être présent? Et là, ben, le bon Dieu était bon, l'hostie s'est mise à saigner. Ce qui lui a bien montré que, ben oui, le Christ était présent. Mais on est dans le cas typique du prêtre qui, au départ, oui, accomplit les gestes. Il le fait sérieusement, il pense bien aux gestes. Mais s'il n'a plus la foi, s'il n'a plus l'attention. Donc, vous voyez, le geste permet d'exprimer l'intention, mais l'intention vient d'abord de notre esprit, de notre attachement à Dieu. Donc, il y a une complémentarité, vous voyez, entre les deux. Il n'y a pas de liturgie sans apparence extérieure. Il n'y a pas de prière sans un geste qui aide à la prière intérieure. Mais fondamentalement, la liturgie demande qu'on ait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Église. Voilà pourquoi, vous voyez, j'insiste tant sur ce rapport entre prière intérieure, prière extérieure. De telle sorte que, eh bien, par la purification qui se fait quotidiennement de plus en plus, nous arrivions à une expression extérieure qui soit la plus parfaite possible. C'est-à-dire que le geste, encore une fois, ne soit pas fait simplement comme un geste, mais qu'il corresponde à ce que nous vivons intérieurement avec le Christ. Et donc, cette prière et cette liturgie qui l'exprime, le premier but est l'adoration de Dieu. Toute la liturgie de l'Église est d'abord adoration. Quand vous regardez la messe, j'y reviendrai, je ne vais pas trop y insister maintenant, je vous en parlerai cet après-midi, ça sera même ma conclusion, à travers la messe et la communion, mais quand vous regardez l'organisation de la messe, elle est très claire. Il y a d'abord, par les prières au bas de l'autel, la préparation non seulement du prêtre, mais des fidèles, c'est-à-dire ben, la reconnaissance de notre faiblesse, le confiteor, etc. Et puis, l'enseignement, par les lectures, et puis, là, on rentre dans le mystère, par l'offertoire, et ensuite, la consécration nationale, le canon de la messe. Et qui se termine par la communion. Or, tout ça, c'est quoi? C'est proclamer la gloire de Dieu. C'est, nous nous préparons à ce qu'il y a de plus important dans la prière de l'Église, qui est le renouvellement non sanglant du Saint-Sacrifice du Calvaire, mais nous sommes à plein dans le Saint-Sacrifice par l'offertoire et le canon, et donc nous rendons d'abord gloire, parce que c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour être sauvés. Vous voyez, quand les enfants me disent en catéchisme, oh, ben, monsieur l'abbé, Dieu, j'ai souvent eu cette objection quand on parle justement de la croix, etc., de la rédemption. Enfin, monsieur l'abbé, le bon Dieu, il est tout puissant. Oui. Il pouvait nous sauver autrement. Oui. Il pouvait prendre un décret. Dire un beau matin, ben voilà, les hommes sont sauvés. Ça aurait été réalisé. Et un gamin qui va toujours en passant, ça aurait été vachement bien. Hein. Et le seul problème, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. Le bon Dieu, il a pris le moyen. Donc, on ne discute pas du moyen, puisque c'est Dieu qui l'a donné. Il est forcément parfait. Il est forcément infini. Il n'y a pas à discuter. Il y a à prendre les choses que Dieu nous donne. Et donc, le Saint-Sacrifice de la Messe, le sacrifice du Calvaire, nous a sauvés, et c'est le moyen que Dieu a voulu nous donner. Et donc, la meilleure manière de lui rendre gloire, c'est de rentrer dans le moyen qu'il a lui-même choisi pour nous libérer du péché et pour honorer son Père. Et donc, nous ne faisons pas mieux que le Christ, bien évidemment, nous rentrons dans le grand acte d'honneur du Christ vis-à-vis de son Père. Et c'est ça qui fait, qui rapproche l'âme, qui donne cet état de prière pour rentrer avec Dieu. Dieu aime les âmes qui prennent le chemin de son Fils. Et le Fils aime les âmes qui prennent le moyen d'honorer son Père. Vous avez là la clé de la, non seulement de la spiritualité, mais de notre prière. Avec la grâce du Saint-Esprit, bien évidemment. La prière est trinitaire, en ce sens. Et donc, c'est d'abord notre premier but, c'est de rendre honneur et gloire à Dieu. C'est la première chose, l'adoration. Mais il est vrai, cette prière, cette liturgie, plus exactement la liturgie qui fonde notre prière, elle est aussi de demande. Ça, je voudrais y insister beaucoup, parce que, bon, vous avez le texte dans l'Évangile, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, etc., etc., celui qui demande du pain, on ne va pas donner un serpent, bien. Dieu aime qu'on demande, à condition que ce soit dans l'ordre, que ce soit des demandes, on va dire, qui correspondent effectivement à l'être même de Dieu. C'est là la liturgie qui nous indique comment demander, quoi demander et quand demander. Mais c'est sûr que nous n'oublions jamais de demander. Pourquoi ? Parce que la demande, c'est la reconnaissance de notre faiblesse. Et reconnaître notre faiblesse, c'est laisser passer la grâce. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Celui qui pense que, voilà, il va s'en sortir par lui-même, qu'il n'a rien besoin de demander. Non, non, tout va bien. Il est sûr que là, Dieu n'entrera pas. La reconnaissance de la faiblesse, là, c'est le grand enseignement de saint Paul. Je me réjouis de ma faiblesse, parce qu'alors je suis fort dans la grâce du Christ. Mais quand il dit ces fameuses épîtres qui est merveilleuse, qu'on a lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, et il dit, et pourtant Dieu m'a donné, j'ai une écharpe dans la chair, par trois fois j'ai demandé à Dieu de m'en libérer, et Dieu le Christ m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma force éclate dans ta faiblesse. Ça c'est le fondement même là aussi, et de la prière. Et je dirais que la reconnaissance de notre faiblesse, de ce que nous sommes vraiment, amène la reconnaissance du besoin que nous avons de Dieu, de la grâce. Et donc, participe, là aussi, à l'honneur qui est rendu à Dieu. Reconnaître notre besoin de la grâce de Dieu, c'est reconnaître son amour infini pour nous. C'est reconnaître son être absolument divin. C'est reconnaître que, comme le dit saint Jean, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et donc, aimer Dieu, au fond, c'est pas lui faire là aussi... C'est pas facile, je le reconnais, parce que c'est de l'ordre de la foi. C'est pas dire, mon Dieu, je vous aime, vous savez pas, ça va ce que je vous aime, c'est merveilleux ce que je vous aime, ça suffit pas. Il faut laisser Dieu s'aimer en nous. Puisque nous sommes, par le baptême, dépositaires de la Sainte Trinité. Nous sommes devenus le tabernacle de la Sainte Trinité par le baptême. Certes, le péché mortel ôte ce tabernacle, mais heureusement, il vous en parlerait là aussi cet après-midi, nous pouvons le retrouver directement par la pénitence. Et c'est pourquoi je vous montrerai que la pénitence, il ne faut pas la craindre. Bien au contraire, le sacrement, j'entends. Et la pénitence aussi, d'ailleurs, en tant que telle. Mais, n'oubliez jamais cela, nous sommes le tabernacle de la Sainte Trinité. C'est-à-dire que l'opération trinitaire par laquelle Dieu aime le Fils qui le lui rend bien, ce qui prouve qu'il y a le Saint-Esprit qui est l'expression de cet amour commun du Père et du Fils, ces trois personnes font cette opération dans notre âme. Avez-vous réfléchi à ceci? Quand vous recevez, quand nous recevons la communion, nous recevons directement, bien sûr, le Christ dans sa présence réelle. Mais le Christ n'est jamais absent de la Sainte Trinité. Donc nous recevons non pas réellement, je ne veux pas dire ce que je ne dis pas, nous ne recevons pas réellement la Sainte Trinité, mais spirituellement, nous augmentons sa présence trinitaire dans notre âme par la communion. Et là, c'est cet échange divin, oui, qui crée en notre âme, l'amour de Dieu que va exprimer notre prière. Et donc, c'est toute une vie. Il va dire, voilà, je ne le ressens pas. Bon, bien sûr, je vous ai expliqué pourquoi on ne le ressent pas. Mais en plus, il faut rentrer dans le temps de Dieu, dans la manière de faire de Dieu, qui nous connaît beaucoup mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et au fond, quand on dit, voilà, mon Dieu, moi je lui dis souvent ça, je savais qu'à la messe, je dis, apprenez-moi à me connaître comme vous me connaissez. Si on se regarde, on se connaît soi-même. On se trouve pas mal, quand même. Ouais, moi, on est intelligent, on a un peu de volonté, on peut être beau, belle, je sais pas, on a des tas de vertus, c'est évident. Là, c'est fichu. Non, de se connaître comme Dieu nous connaît, c'est-à-dire à l'aune de sa divinité, à l'aune de son amour pour nous. Donc, pour le laisser nous donner cette connaissance personnelle qu'il a de nous et fonder notre prière là-dessus. Et là, vraiment, on rentre dans le cadre même de la vie surnaturelle. Mais je le répète, il faut être patient. Il faut vraiment laisser Dieu agir. Et c'est là où la liturgie nous aide. Et parce que finalement, ce renouvellement de la liturgie annuellement nous permet à chaque fois de revenir, de reprendre. L'Avent, Noël, toute cette atmosphère de Noël, la petite enfance, et puis ensuite l'épiphanie, et ça. On vit de chaque période liturgique. C'est pour ça que je trouve que cette année liturgique, elle est organisée de manière exceptionnelle. Et ça ne peut venir que du Christ par l'Église romaine. Et il y a une continuité. Alors on dit, bah oui, mais on va recommencer chaque année. Mais qui peut se vanter en un an de connaître toute la vie intime de Dieu? Il nous faudra l'éternité au ciel. Alors, sachons profiter de chaque année pour préparer justement ce qui sera notre vie d'intimité avec Dieu pendant toute l'éternité, où nous n'aurons jamais fini d'ailleurs d'être intimes avec lui, je tiens à vous le rappeler. Donc il ne faut pas hésiter à demander, en fonction de ce, dont nous avons besoin, en fonction, et même là, effectivement, Dieu aime, y compris pour les raisons précises que nous pouvons avoir, les soucis, les angoisses, les catastrophes, que sais-je. Mais en n'oubliant jamais de faire cette action de grâce, justement. Et je crois, et je vais terminer là-dessus, pour cette fois-ci, et je crois que, cette prière de demande, il faut que nous la transformions en même temps en action de grâce. C'est-à-dire, offrir à Dieu. Il y a la prière d'offrande est très importante. Et là, on prend exemple sur la liturgie de la messe, où l'offertoire précède le canon, qui est le sacrifice lui-même. Donc, nous offrons ce que nous sommes, nous offrons nos soucis, nous offrons nos maladies, nous offrons nos propres souffrances. C'est-à-dire que nous ne tournons pas sur nous-mêmes. Nous les donnons à Dieu parce que lui seul, non seulement va leur donner son véritable sens, mais surtout va nous permettre de les voir, ces difficultés, avec le regard de Dieu. Je me permets là un petit souvenir. Pardon, il est personnel, mais évidemment, c'est ce dont je me souviens mieux, justement. Beaucoup d'entre vous le savent, j'ai perdu mon père quand j'étais au séminaire. Donc, j'étais en 74, j'avais deux ans de séminaire. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas sympa. C'est pas sympa, parce que ben, d'abord, papa, moi, bien sûr, je l'aimais bien. J'aime toujours bien, d'ailleurs. En plus, il demandait qu'une seule chose, c'était de servir ma première messe. Alors zut, quoi, j'en ai pu attendre 3 ans. Bon, j'étais complètement idiot, je vous l'accorde. Mais bon, c'est le mouvement premier. Et la réponse, je l'ai eue par le sermon de mon directeur spirituel le lendemain de mon ordination, à ma toute première messe. Végotli a eu cette petite phrase extraordinaire. Monsieur l'abbé, vous pouvez offrir pour la première fois le Saint-Sacrifice, parce que votre père a offert le sacrifice de sa vie. Et je me suis dit, crétin des âmes, je ne savais pas qu'on dit ça, quoi. Donc, il faut du temps pour rentrer dans le truc. Il faut le temps de Dieu. Il faut le temps de Dieu. Mais voilà, l'idée était excellente. Elle est excellente, c'est une réalité. Humainement parlant, ah oui, ça fait mal. Oui, ça, qui pourrait le nier? Je crois que ça serait une stupidité que de le nier. Mais surnaturellement, vous voyez, le bon Dieu tire des fruits au fur et à mesure. Et c'est là, c'est cet esprit de la prière, par la liturgie dans laquelle nous rentrons. Là, nous, on fait cette volonté de Dieu. Tout ça, nous avons tous des circonstances de ce style qui nous obligent petit à petit, vous voyez, à rentrer dans cet esprit de Dieu, mais en ayant toujours, encore une fois, cette idée d'honorer, de rendre grâce, de rendre gloire, parce qu'au fond, c'est la finalité pour laquelle nous sommes construits. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu, d'abord et avant toute chose. C'est dans cette gloire à Dieu, je dirais, nous fait reconnaître ce qu'est Dieu. Le fait de reconnaître ce qu'est Dieu nourrit notre âme, et c'est un espèce de cercle vicieux, mais un bon cercle vicieux. C'est que constamment, je reviens par la liturgie qui me permet, encore une fois, à chaque fois, de reconnaître ce qu'est Dieu, donc de véritablement nourrir mon âme. Vous voyez combien cette liturgie est importante pour notre prière. Alors, il nous restera à voir, parce que je ferai tout à l'heure, je vais lire les heures, parce que je suis un peu perdu, j'avoue. Oui, à 11h45, vous avez dans une heure. Je voudrais vous parler là, justement, de la pénitence. Et en fait, je ne peux pas prendre tous les sacrements, c'est pas possible. Où j'étais les deux essentiels, vous en doutez, le sacrement de la pénitence et le sacrement de l'Eucharistie à travers la Sainte Messe. qui sont là vraiment des expressions, je t'amènerai par la sa place d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, ben, je m'arrête parce que j'ai déjà été trop long. Le roux, la forme, prière, confession ou reproche particulier. Donc nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, à 11h45. Un peu si vous voulez vous sortir, mais je